At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Section 1 de L'Art de lire. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jehan. L'Art de lire par Émile Faguet. Avant-propos. On lit très peu, disait Voltaire, et parmi ceux qui veulent s'instruire, la plupart lisent très mal. De même, un épigrammatiste inconnu, du moins de moi, disait, au commencement, je crois, du XIXe siècle, « Le sort des hommes est ceci. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le sort des livres, le voici. Beaucoup d'épelés, peu de lus. » Savoir lire, on le sent, est donc un art. Il y a un art de lire. C'est à quoi songeait Sainte-Beuve quand il disait « Le critique n'est qu'un homme qui sait lire et qui apprend à lire aux autres. » Mais en quoi cet art consiste-t-il? Je crois que nous voilà tous embarrassés. Un art se définissant d'après le but qu'il se propose, nous avons sans doute à nous demander pourquoi nous lisons. Est-ce pour nous instruire? Est-ce pour juger des ouvrages? Est-ce pour en jouir? Si c'est pour nous instruire, nous devons lire très lentement, en notant, plume en main, tout ce que le livre nous apprend, tout ce qu'il contient d'inconnu pour nous. Et puis, nous devons relire, très lentement, tout ce que nous avons écrit. C'est un travail très sérieux, très grave, et où il n'y a aucun plaisir si ce n'est celui de se sentir plus instruit de moment en moment. Est-ce pour juger des ouvrages? En d'autres termes, est-ce lire en critique? Tout de même, il faudra lire très lentement, en prenant des notes et même en notant sur fiches. Fiches relatives à l'invention, aux idées nouvelles. Fiches relatives à la disposition, au plan, à la manière dont l'auteur conduit ses idées ou conduit son récit, ou mêle ses idées à son récit. Fiches sur le style, sur la langue. Fiches de discussion, enfin, c'est-à-dire sur les idées de l'auteur comparées aux vôtres, sur son goût comparé à celui que vous avez, sur ses idées encore et son goût comparés à ceux de notre génération ou à ceux de la génération dont il était, etc. De toutes ces fiches, vous constituez l'idée générale que vous vous faites de l'auteur et les idées particulières que vous avez sur lui, et vous n'avez plus qu'à rattacher logiquement ou vraisemblablement ces idées particulières à cette idée générale, pour faire, sinon un bon article, du moins un article qui se tienne. Seulement, vous aurez appris à votre lecteur à lire en critique, et non pas à lire pour jouir de sa lecture, et peu s'en faut que le mot de Sainte-Beuve ne soit faux. Le critique ne sait pas lire pour son plaisir et n'apprend pas aux autres à lire pour le leur. Il apprend au lecteur à lire en critique. Or, lire en critique n'est pas un plaisir, ou du moins est un plaisir très particulier, mêlé de beaucoup de sécheresse. Sarcelle me disait, vers la fin de sa vie, il est vrai, « Comme je suis là de lire les livres pour savoir ce que j'en dirai, ce n'est plus lire cela, ce n'est plus s'abandonner, c'est réagir. » C'est lire en soi, beaucoup plus que dans l'auteur. Il avait bien un peu raison. À quoi donc sert le critique? À faire lire l'auteur à un certain point de vue. Son article est une sorte d'introduction à l'auteur dont il s'agit, introduction qui, du reste, peut être fort utile. Selon que le lecteur a lu déjà ou n'a pas lu l'auteur, le critique l'invite à lire dans telle disposition générale, ou à relire ou repenser selon telle orientation nouvelle. Dans le premier cas, il lui dit « Songez à ceci ». Dans le second, « Avez-vous songé à ceci ?» Pour parler comme Bonald, qui voyait tout par trois, et dans chaque triade un médiateur, la lecture se compose de trois personnages. L'auteur, le lecteur, et le critique est le médiateur. Mais, encore une fois, le critique est un homme qui ne sait lire qu'en critique, et qui n'apprend à lire qu'en critique, qui n'enseigne que la lecture critique, dont, du reste, je ne songe à dire aucun mal. Mais voulez-vous lire seulement pour jouir de vos lectures? Voulez-vous apprendre à lire comme on apprend à jouer du violon, c'est-à-dire pour savoir en jouer et pour prendre le plus grand plaisir possible en jouant. C'est un tout autre but, c'est un tout autre point de vue, et c'est à cet art seul qu'est consacré le petit livre que je commence. L'art de lire, chapitre 1. Lire lentement. Pour apprendre à lire, il faut d'abord lire très lentement. Et ensuite, il faut lire très lentement, et toujours, jusqu'au dernier livre qui aura l'honneur d'être lu par vous, il faudra lire très lentement. Il faut lire aussi lentement un livre pour en jouir que pour s'instruire par lui ou le critiquer. Flaubert disait « Ah, ces hommes du XVIIe siècle, comme ils savaient le latin, comme ils lisaient lentement !» Même sans dessein d'écrire soi-même, il faut lire avec lenteur, quoi que ce soit, en se demandant toujours si l'on a bien compris et si l'idée que vous venez de recevoir est bien celle de l'auteur et non la vôtre. Est-ce bien cela ? Doit être la question continuelle que le lecteur se fait à lui-même. Il y a une manie des philologues qui est un peu divertissante, mais qui part du meilleur sentiment du monde, et dont nous devons avoir et conserver comme le principe, comme la racine. Ils se demandent toujours, est-ce bien le texte ? N'y a-t-il pas ergo au lieu de ego, et ex templo au lieu de extemplo ? Cela ferait une différence. Cette manie leur est venue d'une excellente habitude, qui est de lire lentement, qui est de se défier du premier sens qu'ils voient aux choses, qui est de ne pas s'abandonner, qui est de ne pas être paresseux en lisant. On dit que, dans le texte de Pascal, sur le Ciron, voyant le manuscrit, Cousin lisait dans l'enceinte de ce raccourci d'abîme, et il admirait. Il y avait dans l'enceinte de ce raccourci d'atome. Ce qui a un sens. Cousin, entraîné par son enthousiasme romantique, ne s'était pas demandé si raccourci d'abîme en avait un. Il ne faut pas avoir de paresse en lisant, même lyrique, ni de précipitation. La précipitation n'est d'ailleurs qu'une autre forme de la paresse. Nos pères disaient « lire des doigts ». Cela voulait dire « feuilleter », de telle sorte que, tout compte fait, les doigts aient plus de travail que les yeux. Monsieur Bell lisait beaucoup des doigts, c'est-à-dire qu'il parcourait beaucoup plus qu'il ne lisait, et qu'il tombait toujours sur l'endroit essentiel et curieux du livre. Il ne faut pas penser trop de mal de cette méthode qui est celle des hommes qui sont, comme Bell, des collectionneurs d'idées. Seulement cette méthode ôte tout le plaisir de la lecture et y substitue celui de la chasse. Si vous voulez être un lecteur dilettante et non un chasseur, c'est le contraire même de cette méthode qui doit être la vôtre. Il ne faut pas du tout lire des doigts, ni lire en diagonale, comme on a dit aussi d'une manière très pittoresque. Il faut lire avec un esprit très attentif et très défiant de la première impression. Vous me direz qu'il y a des livres qui ne peuvent pas être lus lentement, qui ne supportent pas la lecture lente. Il y en a en effet, mais ce sont ceux-là qu'il ne faut pas lire du tout. Premier bienfait de la lecture lente. Elle fait le départ, du premier coup, entre le livre à lire et le livre qui n'est fait que pour n'être pas lu. Lire lentement, c'est le premier principe, et qui s'applique absolument à toute lecture. C'est l'art de lire comme en essence. Y en a-t-il d'autres ? Oui, mais dont aucun ne s'applique à tous les livres indistinctement. En dehors de lire lentement, il n'y a pas un art de lire. Il y a des arts de lire, et très différents. Selon les différents ouvrages, ce sont ces arts de lire que nous allons successivement essayer de démêler.
Fin de la section 1. Section 2 de L'art de lire par Émile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehan. Chapitre 2.
Les livres d'idées. Il y a des livres d'idées, comme le discours de la méthode, l'esprit des lois, le cours de philosophie positive. Il y a des livres de sentiments, comme les confessions et les mémoires d'outre-tombe. Il y a des poèmes dramatiques, il y a des poèmes lyriques. Il est évident que, sauf ce précepte général de lire avec attention et réflexion continuelle, l'art de lire ne peut pas être le même pour ces différents genres d'écrits. Il y a un art de lire pour chacun. L'art de lire les livres d'idées me semble être celui-ci.
c'est un art de comparaison et de rapprochement continuel. Matériellement, on lit un livre d'idées autant en tournant les feuillets de gauche à droite qu'en les tournant de droite à gauche. Je veux dire, autant en revenant à ce qu'on a lu qu'en continuant de lire. L'homme à idées étant, plus encore qu'un autre, un homme qui ne peut pas tout dire à la fois, se complète et s'éclaire en avançant, et on ne le possède que quand on l'a lu tout entier. Il faut donc, à mesure qu'il se complète et qu'il s'éclaire, tenir compte sans cesse, pour comprendre ce qu'on en lit aujourd'hui, de ce qu'on en a lu hier, et pour mieux comprendre ce qu'on en a lu hier, de ce qu'on en lit aujourd'hui. Ainsi se dessinent, dans votre esprit, les idées les plus générales de votre penseur, celles qu'il a eues avant toutes les autres et dont toutes les autres ont découlé, ou celles qu'il a eues tout à la fin comme conséquence et synthèse d'une foule d'idées particulières, ou, plus souvent, celles qu'il a eues au milieu de sa carrière intellectuelle et qui étaient le résumé d'un grand nombre d'idées particulières, et qui à leur tour ont produit, ont créé des idées particulières en très grand nombre. Si vous lisez Platon, par exemple, vous croyez bien vous apercevoir que la première idée générale qu'il a eue, c'est l'horreur de la démocratie athénienne qui avait tué Socrate. Vous observez que toute sa politique doit venir de là, et vous êtes amené ainsi à comparer tel ou tel texte des lois à la fameuse prosopopée des lois dans le Criton. Vous vous dites que Platon est avant tout un aristocrate, mais qu'une sorte de respect stoïque et même chevaleresque de la loi est une chose qu'il doit avoir dans le cœur, puisqu'il l'admire si fort dans le cœur des autres. Il serait donc une sorte de républicain, aristocrate, républicain, c'est-à-dire ne voulant être que sujet de la loi, et voulant que la loi soit plus puissante que tous les hommes, aristocrate, c'est-à-dire ne voulant pas du commandement de la foule. Mais n'y a-t-il pas contradiction ? Et n'est-ce point la foule qui fait la loi ? Non, dans une république aristocratique. Non, surtout si vous observez que Platon parle surtout du respect aux lois anciennes, qui ne sont, au moment présent, l'œuvre ni de la foule, ni d'une élite, mais l'œuvre du passé, l'œuvre lente des siècles. Et vous arrivez à cette conclusion que peut-être Platon est un homme qui veut qu'un peuple soit surtout gouverné par son passé, ce qui est l'essence même de l'aristocratisme. Vous vous trompez peut-être, mais vous avez comparé, rapproché, contrôlé une idée par l'autre, limité ou rectifié une idée par l'autre, et vous avez goûté le plaisir qui est celui que l'on doit aller chercher chez un penseur, qui est le plaisir de penser. J'ai parlé d'idées générales dont l'auteur est parti et qui ont fait naître des idées particulières. Vous remarquerez toujours que, quand il s'agit d'une idée générale d'où l'auteur est parti, cette idée est un sentiment. Pour Platon, la haine de la démocratie, c'est le culte de Socrate. Mais j'ai parlé d'idées générales où l'auteur est arrivé, peu à peu, en ramassant un grand nombre d'idées ou d'observations de détails. Platon vous paraîtra avoir procédé ainsi pour arriver à sa théorie des idées. Il est monothéiste, comme plusieurs de ses prédécesseurs en philosophie. Il est monothéiste. Que le monde soit susceptible d'être ramené à une seule loi, c'est une idée qui a commencé à envahir l'esprit humain et à s'imposer à lui. Mais d'autre part, il est trop grec pour ne pas rester un peu polythéiste, pour ne pas croire que des forces multiples et diverses gouvernent le monde et se le disputent. N'est-ce point pour cela qu'il imagine son monde des idées, vivant dans le sein de Dieu, substances et âmes intérieures de toutes les choses qui existent ? Qu'est-ce que ceci ? C'est un Olympe spirituel substitué à un Olympe matériel. C'est un Olympe d'âme pure substitué à un Olympe de surhomme, à un Olympe anthropomorphique. C'est le livre d'un païen mystique, d'un païen spiritualisé. Vous comparez, vous rapprochez, vous vous souvenez que Platon adore les mythes, c'est-à-dire les théories habillées en fables, en manière de poèmes épiques. Et vous vous dites que la rencontre d'un mythologue et d'un spiritualiste a produit cette théorie des idées vivantes, des abstractions qui sont des êtres, des abstractions qui sont des forces, des abstractions qui sont des dieux. Et vous pouvez encore vous tromper, Mais vous ne mécontenteriez pas Platon qui, comme tous les philosophes, écrit moins pour être admiré que pour être compris, et même moins pour être compris que pour faire penser. Vous avez pensé, il a gagné la partie. Et encore, il y a des idées générales qui viennent dans le cerveau du penseur après toutes les autres, ou bien à peu près. Et celles-ci, idées filles d'idées, elles n'ont presque plus aucun rapport avec le sentiment. Distinguez-les comme telles, et voyez-les comme aussi téméraires qu'elles sont pures, et comme aussi aventureuses qu'elles sont abstraites. Qu'est-ce que Dieu pour Platon ? Non pas un être qu'on adore par mouvement du cœur et élan de l'instinct, mais une doctrine que d'autres doctrines ont amené peu à peu à croire vraie. Dieu, pour Platon, est une conclusion. La foi de Platon est une logique. Ce n'est pas chose à lui reprocher. Mais comme cela nous intéresse de comparer cette religion philosophique aux religions où Dieu est sensible au cœur, c'est-à-dire à l'intuition immédiate de tout l'être vivant, lesquelles ont raison. Et, pour le moment, qu'importe ? Pour le moment, je n'apprends qu'à lire. Lire un philosophe, c'est le comparer sans cesse à lui-même. C'est voir ce qui en lui est sentiment, idée sentimentale, idée résultant d'un mélange de sentiments et d'idées. Idée idéologique, enfin, c'est-à-dire résultant d'une lente accumulation dans l'esprit du penseur d'idées pures ou presque pures. Vous lisez Montesquieu. Vous apprenez assez vite que cet homme n'a qu'une passion, c'est la haine du despotisme. Ce qu'on déteste le plus au monde, quand on a l'âme active et non pas seulement passive et soumise, c'est ce que l'on a vu autour de soi à 20 ans. Et je ne dis pas que cela soit très bon, je dis seulement qu'il en est ainsi. Montesquieu a vu, à 20 ans, la fin du règne de Louis XIV. Ce qu'il déteste le plus au monde, c'est le despotisme. Observons-le encore, en lisant surtout les lettres persanes. Ce qu'il n'aime pas non plus, c'est la religion catholique. Pourquoi ? Mais sans doute parce que la religion catholique a été une très bonne alliée de Louis XIV, surtout dans la dernière partie de son règne, et un bon soutien de son trône. Or, que lisons-nous dans l'esprit des lois ? Que la religion est une des meilleures choses d'un État bien réglé. Quelle est cette contradiction ? N'y aurait-il pas là seulement ceci que nous sommes passés d'une idée de sentiment à une idée de raisonnement ? Montesquieu est porté à la haine du despotisme. Il a songé, assez naturellement, à tout ce qui pouvait l'arrêter, le réfréner, l'endiguer, l'entraver et l'amortir. Parmi les différentes forces qui pouvaient avoir cet effet, il a rencontré la religion comme il a rencontré l'aristocratie militaire, comme il a rencontré la magistrature. Dès lors, la religion lui est apparue sous un autre aspect, et je ne dis pas qu'il ait eu pour elle tendresse d'âme, mais il a eu pour elle tendresse d'esprit. Évolution des idées se dégageant peu à peu des sentiments dont elles sont parties. Nous rencontrons dans Montesquieu cette grande idée générale, influence des climats sur les tempéraments, et sur les mœurs, et sur les idées, et sur les institutions des peuples. Et nous ne manquons pas d'envisager Montesquieu comme le théoricien matérialiste ou fataliste des législations. Que voyons-nous, tout à côté ? Cette idée qu'il faut combattre le climat par les mœurs. Et les mœurs, telles qu'elles sont restées encore sous l'influence du climat, par les lois. Mais cela est-il possible ? À quoi croit-il, donc ? Il est à supposer qu'il croit à 2 choses. C'est à savoir à l'empire des choses sur nous et au pouvoir de nous sur les choses. Il croit sans doute, comme a dit Montaigne, que la fatalité nous mâche. Il croit sans doute aussi que l'esprit humain peut réagir contre la fatalité. Les climats font nos mœurs font les lois. Oui, mais aussi nos lois font nos mœurs peuvent combattre le climat. Mais avec quoi ferons-nous des lois contre nos mœurs, et ensuite des mœurs qui, pénétrées de nos lois, combattront le climat ? Avec, sans doute, la force de notre esprit même. Un fataliste spiritualiste, et d'autant plus spiritualiste, car il le faut qu'il est plus fataliste, tel est donc Montesquieu ? Il paraît bien. Du moins, à le supposer tel, par comparaison que nous aurons faite de lui à lui. Nous aurons pensé, nous aurons réfléchi, sur ces différentes forces,
extérieur que nous subissons, intérieur que nous saisissons ou croyons saisir, extérieur que nous sentons, intérieur dont nous prenons conscience, et nous aurons, en tout cas, élargi le cercle de notre esprit. Nous lisons Descartes. Première impression, quel positiviste. Ne rien croire sur autorité, ne rien croire que sur observation faite par nous et réflexion faite par nous, éclairée par quelle lumière, assurée par quel critérium, par l'évidence, c'est-à-dire par la nécessité où nous serons de croire, à moins de renoncer à notre intellect lui-même, par la nécessité où nous serons de croire sous peine de suicide intellectuel. C'est le positivisme lui-même. Poursuivez, lisez encore et rapprochez. Mais qui nous assurera que notre évidence n'est pas trompeuse ? Rien. Si, Dieu, Dieu qui ne peut pas se tromper, ni nous tromper, et qui, par conséquent, nous a donné une évidence qui n'est pas une illusion d'évidence, et par lequel nous sommes donc assurés qu'à croire à notre évidence, nous ne serons pas illusionnés. Mais reprenons. Dieu qui ne peut pas se tromper, c'est Dieu vérité. Et Dieu qui ne peut pas nous tromper, c'est Dieu bonté. Pour croire à notre évidence, c'est donc à Dieu omniscient et à Dieu providence qu'il faut croire. Et notre condition de connaissance, c'est donc Dieu vérité et Dieu providence. Et cette connaissance dépendant de Dieu providence n'est pas très différente de la vision en Dieu de Malebranche. Ne voir que parce que Dieu permet que nous voyons, c'est voir en Dieu. Voir par Dieu, c'est voir en Dieu. Descartes n'est donc pas un positiviste, c'est un déiste. Et quel déiste ? C'est un mystique. Par la comparaison des deux idées principales de Descartes, nous avons retourné Descartes et du père du positivisme moderne, nous avons fait le tenant le plus radical du déisme et du providentialisme traditionnel. Est-ce là ce qu'il est ? Je n'en sais rien. Il est très probable, à mon avis, mais je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que nous avons pensé. Nous avons pensé en nous souvenant, à travers les méditations, du discours de la méthode, et en contrôlant le discours de la méthode par les méditations. Et nous avons fait comme le tour du problème de la connaissance, nous apercevant que notre moyen essentiel de connaître est subordonné à quelque chose que nous ne pouvons pas connaître. Nous apercevant que notre connaissance se résout en foi, soit à elle-même, soit à quelque chose d'inconnaissable. Qu'avons-nous gagné ? De comprendre une intelligence de premier ordre, de comprendre une intelligence supérieure à nous et par conséquent sans doute d'avoir développé la nôtre. Nous lisons un simple moraliste, La Rochefoucauld par exemple. Nous nous apercevons qu'il ne croit à aucune vertu. Cela peut nous révolter. Cela peut aussi nous paraître très facile à réfuter par une donnée immédiate de la conscience, par cette affirmation de notre être intime que, si nous sentons en nous bien des vices, nous nous saisissons aussi à tel moment comme capables d'une vertu et comme dans une sorte d'impuissance de ne pas céder à son appel. Voilà qui est bien. Mais, à nous en tenir là, nous sommes encore loin de notre auteur. Nous nous tenons à distance de lui, nous n'entrons pas dans son intimité. Tranchons le mot, nous ne le lisons pas. Approchons-nous, voyons de plus près. Que voyons-nous peu à peu ? Qu'il y a des nuances, et que très souvent La Rochefoucauld dit « toujours », mais qu'assez souvent aussi il dit « quelquefois », qu'il est beaucoup moins tranchant au fond qu'il ne paraît l'être au premier regard, qu'il ne faut pas le voir comme un bloc. Il y a plus. Nous nous apercevrons bientôt, rien qu'en faisant mentalement une petite liste des vertus humaines, qu'il y a des vertus dont il ne parle pas, et par conséquent des vertus qu'il ne nie point. Il ne nie point l'amour paternel, l'amour maternel, et c'est probablement qu'il reconnaît qu'ils existent, et à l'état pur. S'il dit « si l'on croit que c'est par amour pour elle que l'on aime une femme, on est bien trompé », il ne dit point « si une mère croit que c'est par amour pour lui qu'elle aime son enfant, elle se trompe ». Il n'a pas poussé jusque-là son scepticisme. Son scepticisme a donc des bornes. Eh bien, traçons-les et, en délimitant la pensée de notre auteur, nous l'aurons mieux compris. Nous l'aurons compris. Lire un philosophe, c'est le relire si attentivement qu'on l'analyse. Relisons encore celui-ci et apercevons-nous, ce qu'il est impossible que nous ne finissions pas par saisir, de son procédé. Son procédé, par comparaison d'un nombre suffisant de ses maximes entre elles, nous le surprendrons, est celui-ci, dissoudre, en quelque sorte, diluer une vertu qu'il entreprend dans tous les défauts qui l'avoisinent. Le courage, par exemple, dans le désir de briller, la générosité dans l'ostentation, la loyauté dans le désir d'inspirer une confiance dont on retirera des bénéfices, etc. Fort bien. Mais dès lors, si l'on peut dissoudre les vertus dans les défauts qui les avoisinent, on peut dissoudre aussi les défauts dans les vertus qui sont proches d'eux et dire « tel homme désire briller et pour cela se met toujours en avant, mais au fond de cela il y a du courage. Tel homme veut qu'on le sache généreux, mais pour qu'on le sache, il l'est, en effet. Il faut bien qu'il le soit même, au fond, pour faire tant de sacrifices à vouloir qu'on sache qu'il l'est. C'est en somme un assez bon homme. » Maître du procédé d'un auteur, vous pouvez toujours le retourner contre lui. Et d'abord, c'est un jeu divertissant, donc une jouissance. Mais ce n'est pas seulement un jeu, c'est posséder son auteur jusqu'en son fond, c'est saisir comme sa racine, comme le germe d'où son œuvre est sortie, et d'où elle pouvait sortir la même sans doute, mais dans une autre direction. Et c'est en vérité le bien connaître. On ne connaît sans doute quelqu'un que quand on sait ce qu'il est, et aussi ce qu'il pouvait être. En revenant encore à M. le Duc, que voyons-nous qu'il affirme toujours ? Que l'égoïsme, l'intérêt, l'amour-propre, comme il dit, est le fond de tous nos sentiments et le mobile de toutes nos actions. Vous réfléchissez là-dessus et vous vous dites « Mais, plût à Dieu, dire que nous agissons toujours en vue de notre intérêt, c'est dire que nous n'agissons jamais par bonté. Mais c'est dire aussi que nous n'agissons jamais par méchanceté, que l'homme ne fait jamais le mal pour le plaisir de faire le mal, qu'en un mot, la méchanceté n'existe pas. Mais alors, quelle idée favorable la Rochefoucauld se fait de la nature humaine ! Comme il se trompe en sa faveur ! Quel optimiste que ce La Rochefoucauld ! Comme je me trompais sur ce La Rochefoucauld ! Il y a du vrai, beaucoup de vrai. La Rochefoucauld a été sévère pour nous, mais aussi il a été charitable. Notre plus grand défaut, il ne l'a pas vu, ou il n'a point voulu le voir. De la part d'un homme si sagace, c'est une merveilleuse indulgence. Soit, mais qu'est-il donc arrivé ? Il est arrivé qu'à lire et à relire La Rochefoucauld, La Rochefoucauld s'est transformée sous nos yeux. Nous le voyons tout différent de ce qu'il était. Les sentences se transforment sous la lecture comme le rayon à travers le prisme. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Et dès lors, où est la vérité ? Dans la première impression ou dans la seconde ? Ou dans la troisième ? Probablement, cette vérité, elle aussi, nous fuit d'une fuite éternelle. Probablement, les auteurs sont inépuisables en raison de ce qu'ils ont et en raison de ce qu'en les lisant, nous mettons en eux. Mais l'essentiel est de penser. Le plaisir que l'on cherche en lisant un philosophe est le plaisir de penser. Et ce plaisir, nous l'aurons goûté en suivant toute la pensée de l'auteur. Et la nôtre mêlée à la sienne, et la sienne excitant la nôtre, et la nôtre interprétant la sienne, et peut-être les trahissant. Mais il n'est question ici que de plaisir. Il y a des plaisirs d'infidélité, et l'infidélité à l'égard d'un auteur est un innocent libertinage. Encore, en lisant un philosophe, il faut faire attention à ses contradictions. Les contradictions sont les accidents de paysage d'un grand penseur. On serait désolé qu'il n'en eût point et que son paysage fût trop bien composé. Il semblerait alors que son œuvre fût ce tableau dont parlait Musset, où l'on voit qu'un monsieur bien sage s'est appliqué. On n'est point fâché que la liberté d'esprit, que la spontanéité, que le jaillissement intellectuel se marque à ceci que le penseur n'a pas toujours pensé la même chose et n'a pas tiré toutes ses idées les unes des autres comme des formules algébriques. La contradiction appelle l'attention, l'excite, la ravive, la transforme en réflexion, la féconde infiniment. Je ne souhaite pas que les auteurs abondent en contradictions, mais je souhaite que les lecteurs sachent en trouver. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau, dans tous ses ouvrages, maudit l'influence de la société sur l'individu et souhaite passionnément que l'individu sache s'y soustraire. Et dans un seul, il sacrifie l'individu à la société et souhaite impérieusement qu'elle l'absorbe. C'est une contradiction sans doute, et pour mon compte, j'en suis persuadé. Les grandes idées générales dérivant toujours des sentiments, il est probable que Rousseau, dans la plupart de ses écrits, a tiré ses idées de sa passion pour l'indépendance et pour la solitude, et dans un de ses livres, de sa passion très honorable pour la République de Genève. Mais en sommes-nous sûrs, et sommes-nous certains même qu'il y ait contradiction ? Je sais des hommes de la plus haute intelligence qui n'en voient point ici, et qui rattachent très ingénieusement le contrat social à l'œuvre tout entière, pour eux très une et très cohérente, de Rousseau. Je ne dis point qu'ils aient tort. En fait de contradiction, le premier plaisir du lecteur est d'en trouver, et le second plaisir du lecteur est de les résoudre. Il aiguise son esprit à les trouver, et il l'affine plus encore à les faire disparaître. Il s'exerce à les faire lever. Il s'exerce plus encore à se démontrer à lui-même qu'elles n'existent pas et n'ont jamais existé. Tout cela est bon, et tout cela est très agréable. La suite des états d'esprit à cet égard est celui-ci. On commence par ne pas saisir les contradictions en lisant les penseurs, puis on en relève beaucoup, puis on en aperçoit trop, et dès lors, selon la nature d'esprit que l'on a, on les multiplie avec malignité, et l'on en triomphe, où l'on s'habitue à les résoudre toutes, et l'on finit par les multiplier pour les résoudre. Il ne faut pencher vers aucun excès, et il faut se tenir dans un certain milieu où le plaisir de comprendre ne soit pas gâté par le plaisir de discuter, ni même par celui de concilier trop. Mais se placer tour à tour aux différents points de vue et dans les différentes attitudes, et tantôt s'abandonner à la force de la pensée et à la rigueur de la logique, tantôt se défendre, ne vouloir pas être dupe, opposer l'auteur à l'auteur pour le battre à l'aide d'un auxiliaire qui est lui-même, tantôt venir à son secours et démontrer qu'il ne s'est ni trompé ni contredit, et que ce sont des apparences qui sont contre lui, si tant est même qu'il y ait des apparences. Tout cela est comprendre encore. Tout cela n'est que différentes façons de comprendre. Il suffit, pour que toutes soient utiles et fécondes, qu'à toutes ces opérations préside la loyauté, et que jamais le sophisme ne s'y mêle. Pour résumer, la lecture d'un auteur qui est philosophe est une discussion continuelle avec lui, une discussion où se retrouvent tous les charmes et tous les dangers aussi d'une discussion dans la vie privée. Les charmes, il faut savoir les goûter, il faut savoir écouter longtemps, il faut savoir suivre le penseur dans tous les détours et même dans toutes les hésitations de sa pensée. Il faut sentir l'objection se lever doucement dans notre esprit, mais la prier de ne pas éclater, et d'attendre le moment où peut-être l'auteur cela sera fait lui-même, et le plaisir est très vif alors. Car d'abord, nous sommes sûrs d'être bien en commerce intellectuel avec l'auteur, puisque nous l'avons prévenu, c'est-à-dire compris d'avance. Et ensuite, nous nous disons avec satisfaction que nous ne sommes pas indignement inférieurs à lui, puisque l'objection qu'il s'est faite, nous la lui faisions, c'est-à-dire puisque nous circulions dans sa pensée presque aussi largement, presque aussi aisément que lui-même. Et les dangers de la discussion, il faut savoir les éviter, comme dans une discussion privée. Il ne faut point nous obstiner dans notre sentiment parce qu'il est notre sentiment. Et, parce que nous avons trouvé contre un raisonnement un peu faible de l'auteur, un raisonnement assez fort, croire toujours avoir raison contre lui. Cela nous mènerait assez vite à une étroitesse d'esprit, à une sorte d'irréceptivité, si je puis dire ainsi, en vérité à une inintelligence acquise qui serait certainement la plus fâcheuse des acquisitions. Certaines préférences à rebours sont à noter. Tel auteur est préféré par un lecteur, non pas parce que ce lecteur lui trouve l'esprit juste, mais parce qu'il lui trouve l'esprit faux, ce qui donne à ce lecteur le plaisir d'avoir toujours raison, ou de croire toujours avoir raison contre lui, par suite de quoi c'est à cet auteur que ce lecteur revient constamment. En entrant dans sa bibliothèque, ce lecteur-là va tout droit à cet auteur-là, et s'assied en se disant, de façon plus ou moins consciente, «
comme je vais avoir raison, comme je vais avoir l'esprit juste. Je conseillerais un peu à ce lecteur de changer d'auteur favori. J'ai connu deux hommes qui ne conversaient jamais que de Proudhon. L'un ne jurait que par lui, l'autre allait souvent jusqu'à jurer contre lui. Je n'ai jamais su lequel aimait le plus Proudhon, de celui qui y voyait une source inépuisable de vérité ou de celui qui y voyait un océan de sophismes. L'un l'aimait comme un père spirituel à qui il devait reconnaissance du don de la vie. L'autre l'aimait comme un homme à qui il devait de savourer continuellement sa supériorité intellectuelle. L'un l'aimait avec dévotion, l'autre avec égoïsme. L'un l'aimait de tout l'amour que l'on a pour l'être d'élection, l'autre de tout l'amour que l'on peut avoir pour soi-même. Et l'un était fier de se dire que, s'il rencontrait Proudhon, il le réfuterait et le confondrait assurément. Et l'autre de se dire que, s'il rencontrait Proudhon, il l'expliquerait à lui-même avec une clarté définitive. Et ils s'aimaient réciproquement du reste, l'un étant heureux des occasions que lui donnait l'autre d'exposer la doctrine de son maître et de s'en pénétrer à nouveau. L'autre étant heureux des occasions que lui donnait le premier de discuter comme avec Proudhon lui-même et de le terrasser par procuration. Fortunati ambo. Je crois pourtant que c'est à distance égale, ou à peu près, de ces deux heureux qu'il faut être, et tâcher de se maintenir pour garder cette liberté d'esprit qui est le bonheur intellectuel véritable. En choses intellectuelles, il ne faut ni abdication ni triomphe. L'abdication est toujours un peu déprimante, et le triomphe est toujours vain. Se sentir en face d'un penseur, toujours en lutte courtoise et bienveillante, sentir qu'il a raison et n'en convenir qu'à la dernière extrémité, mais en convenir franchement. Sentir qu'il a tort et se savoir gré de le sentir, mais à la dernière extrémité encore et en se disant toujours que, s'il était là, il ne nous laisserait pas peut-être en pleine sécurité de victoire et aurait sans doute quelque redoutable retour offensif. Lui prêter, même en les tirant de lui ou de vous, quelque argument de réserve à vous réduire ou à vous embarrasser. Voilà l'exercice qui constituera pour vous une bonne hygiène intellectuelle. Avec les philosophes, la lecture est une escrime, où, quelques précautions prises que nous avons indiquées, l'esprit prend incessamment des forces nouvelles qui peuvent être utiles de toutes sortes de façons et qui, par elles-mêmes, et pour le seul plaisir de les posséder, valent qu'on les possède.
Fin de la section 2. Section 3 de L'art de lire par Émile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehan.
Chapitre 3. Les livres de sentiments. Il est permis de lire un peu moins lentement les auteurs qui ont pour matière les sentiments de l'âme humaine. Guère moins du reste. Là aussi, il faut, sous d'autres formes, de la réflexion et même de la discussion. Et par conséquent, tout le contraire de la hâte. Cependant, ici, je suis tout à fait d'avis qu'il faut commencer par s'abandonner. L'auteur sentimental peint les sentiments du cœur moins pour les peindre que pour nous les inspirer. Il est un semeur de sentiments comme le philosophe est un semeur d'idées. Avant tout, il veut toucher. Toucher, c'est faire partager au lecteur les sentiments qu'on a prêtés à ses personnages. C'est nous mettre, par une sorte de contagion, dans l'état d'âme et dans les divers états d'âme des personnages qu'on a créés. Si l'auteur ne réussit point à cela, s'il ne touche pas du tout, laissons-le. Mais s'il nous touche un peu, ne résistons pas. Laissons-nous conduire à cet aimable guide. Laissons-nous aller à l'impression. Laissons-nous toucher. Laissons-nous attendrir. Nous ne nous appartenons plus, il est vrai, mais c'est peut-être pour cela que nous avons pris en main un romancier ou un poète. Cette possession de nous-mêmes par une fiction est une chose assez curieuse. C'est une sorte d'enivrement, et c'est-à-dire c'est à la fois une perte et une augmentation de notre personnalité. C'est un état suggestif. En lisant un roman qui nous passionne, nous ne sommes plus nous-mêmes, et nous vivons dans les personnages qui nous sont présentés. Et dans les lieux qui nous sont peints par le magus, comme dit très bien Horace, c'est-à-dire par l'hypnotiseur, il y a perte de notre personnalité. Mais aussi, il y a augmentation de notre personnalité en ce sens que, dans cette vie d'emprunt, nous nous sentons vivre plus puissamment, plus amplement, plus magnifiquement qu'à l'ordinaire. Et ce moi d'emprunt, vivant d'une vie plus riche que le moi proprement dit, c'est encore nous-mêmes. Le moi proprement dit en est comme le support,
et est heureux de le supporter
et de s'en sentir agrandi. Ou il est comme le vase qui le reçoit, et qui est heureux de le recevoir, et comme un vase qui, en recevant, s'agrandirait, s'élargirait, se dépasserait. Nous recevons en nous l'âme de la princesse de Clèves, et, tout en sentant fort bien que c'est d'une autre âme que nous vivons pour une heure, nous sentons aussi que notre âme, à nous, enveloppe l'âme étrangère qu'elle reçoit, et s'en pénètre et s'en enrichit merveilleusement, ou du moins d'une façon qui nous paraît merveilleuse. Pour vous rendre compte de cette hypnose, portez votre attention sur le moment du réveil. En posant le beau roman, nous nous réveillons au sens propre du mot. Nous nous frottons les yeux, nous nous étirons, nous nous ébrouons. Nous sentons très nettement que nous passons d'une vie dans une autre, et que nous nous diminuons, ou que nous tombons de haut. C'est une âme qui s'était unie à la nôtre, à laquelle nous nous étions unis, et qui nous quitte. Voilà ce que j'appelle s'abandonner, ce qui est nécessaire absolument quand c'est à un écrivain de sentiments que l'on a affaire. Mais il est bien entendu qu'il n'est pas défendu de se reprendre et ressaisir. Il y a même à se reprendre et à réfléchir des plaisirs nouveaux. Réfléchir sur une œuvre d'imagination consiste surtout en ceci. Se demander si les personnages sont vraisemblables et naturels, et goûter leur vérité comme en lisant l'on a goûté la beauté, l'intensité de leur vie morale. On me dira, selon quel critérium pourrons-nous juger de la vérité d'un personnage ? Je répondrai par ce que vous avez vu et observé autour de vous. Sans doute, c'est là un très petit champ d'observation, et ce qu'on en a tiré est par conséquent un critérium, pour ainsi parler, très pauvre. Je ne connais pourtant pas d'autre moyen de juger de la vérité. Il est probable que, par manque de termes de comparaison, nous nous trompons très fréquemment, et que l'auteur qui nous dit « ces personnages que vous trouvez invraisemblables, je les ai connus » a raison. Cependant, les hommes ne sont pas si différents les uns des autres qu'on ne puisse, avec un certain nombre d'observations personnelles, juger par comparaison des personnages que les auteurs nous présentent. Ce qui, dans la réalité, est à portée de nos regards, est une moyenne de l'humanité. Ce que les auteurs mettent sous nos yeux, ce sont êtres qui ou sont dans la moyenne de l'humanité ou s'en écartent en étant supérieurs ou inférieurs à elle, mais doivent lui ressembler et sont de purs monstres d'imagination s'ils ne lui ressemblent pas. Vous avez donc les éléments nécessaires et suffisants pour juger de la vérité des peintures. Vous n'avez jamais vu le père Grandet, mais vous avez connu tel avare, Monsieur X. Et, en réfléchissant sur le père Grandet, vous vous dites, et il est très vrai, le père Grandet, c'est Monsieur X, tel que serait celui-ci s'il était plus poussé, plus entraîné par la fougue de la passion, placé du reste dans des conditions un peu différentes, dans une petite ville ou dans un village, etc. La lecture des romans suppose ainsi comme condition nécessaire du second moment, je veux dire de la réflexion qui juge, une assez grande connaissance des hommes. Et je n'entends par là qu'une assez grande habitude d'observer les hommes autour de soi. Les jeunes ouvrières qui lisent les romans à très bon marché ne sont capables que de l'enthousiasme du premier moment, que de ce que j'ai appelé l'abandonnement. Le second moment n'existe que pour ceux qui sont plus âgés et qui sont doués d'une certaine faculté d'observation et de mémoire. Mais ceux-ci goûtent des plaisirs beaucoup plus vifs, étant encore capables de s'abandonner, l'étant surtout de comparer le roman à la vie et d'éprouver des sensations d'admiration très vives quand ils estiment que le roman a copié la vie avec sûreté, ou plutôt l'a déformée de manière à accuser plus vigoureusement ses traits caractéristiques. Une des plus fortes parmi ces sensations est celle-ci, voir dans le roman ce qu'on avait vu dans la vie, mais le voir d'une façon plus nette et plus accusée. La connaissance que nous avions d'un caractère est juste sans doute, mais elle est générale. Elle est d'ensemble, et par conséquent, elle est flottante, encore. Ce qui nous ravit, c'est d'avoir retrouvé, dans le roman, cette même connaissance sous un rayon plus vif, qui fait sortir les traits de détail, qui met en relief les particularités significatives et qui nous fait dire « comme c'est vrai ». J'avais entrevu cela, je ne l'avais pas vu. J'en avais l'intuition, je n'en avais pas pris possession. Le roman, s'il est bon, nous aide à capter la vie elle-même qui nous fuyait, qui échappait à demi à nos prises nonchalantes. La lecture est ainsi faite de ce que nous savons, de ce que nous apprenons et de ce que nous n'apprenons que parce que nous le savions déjà et de ce que nous savons mieux maintenant parce que nous venons de le rapprendre. Nous allons ainsi de la réalité à la fiction, et la fiction n'a de prix pour nous que si à nos yeux même elle est pénétrée de réalité. Et la réalité nous est plus intéressante quand nous y revenons après avoir traversé la fiction pénétrée d'elle. Un autre critérium à juger la fiction, et par conséquent à en jouir davantage si elle est bonne, c'est de regarder en nous-mêmes. On demandait à Massillon, très honnête homme, « Où prenez-vous donc la matière de toutes les peintures de vice que vous faites ?» Il répondit, « En moi-même, il est ainsi. Chacun de nous se suffirait presque pour peindre tous les vices et aussi toutes les vertus, s'il savait peindre. Pour reconnaître du moins la vérité de toutes les peintures de toutes les vertus et de tous les vices. Chacun de nous est un petit monde, où le monde entier se voit en raccourci, et véritablement comme en germe. Et le proverbe italien cité par Pascal est très exact. Le monde entier est fait comme notre famille, et même comme nous. Or, ces semences de toutes les vertus et de tous les vices qui sont en nous, nous permettent très bien de juger ce qu'il y a de réalité dans les fictions. Une fiction, c'est toujours une partie de nous qui, aux mains de l'auteur, est devenue un personnage, une autre partie de nous qui est devenue un autre personnage, et ainsi de suite. Et c'est encore, le plus souvent, par retour sur nous-mêmes que nous jugeons. La lecture exige donc de nous que nous soyons capables d'analyse autopsychologique. Et il n'y a très bons lecteurs que ceux qui en sont capables. J'ai entendu une femme de 30 ans dire « Je n'ai jamais pu comprendre ce qu'on trouve d'intéressant dans Madame Bovary ». J'ai pensé à lui répondre « Ce qu'on trouve d'intéressant dans Madame Bovary, c'est vous ». Car il n'y a pas de femme de 30 ans, je ne dis point qui ne soit Madame Bovary, mais qui ne contienne en elle une Madame Bovary, avec toutes ses aspirations et tous ses rêves et toute sa conception de la vie. Une Madame Bovary latente, qui n'éclora point, comprimée et déroutée par toutes sortes d'autres éléments psychiques, mais qui existe. Seulement la dame dont je parle, très en dehors, très étourdie, n'était pas capable de se discerner elle-même, et ne pouvait démêler la Madame Bovary qui était en elle, comme du reste dans toutes les autres femmes. Les étonnements même que nous causent quelquefois les fictions, et je parle encore une fois de celles qui sont bonnes, nous amènent à des découvertes. Nous sommes étonnés, choqués, nous nous disons « mais ce n'est pas vrai ». Un je ne sais quoi nous avertit que, peut-être, ce n'est pas si faux que nous croyons. Nous nous interrogeons, il arrive souvent que nous nous disions « du moins, ce n'est pas impossible ». C'est qu'un retrait inexploré de notre âme s'est à demi révélé à nous. C'est qu'une partie du subconscient, par l'effet de cette aide étrangère, est entrée dans notre conscient. C'est que nous nous voyons plus profondément qu'auparavant. C'est ainsi que la lecture, si elle exige l'habitude de l'examen de conscience, par contre-coup aussi nous la donne. Du jour où déjà, bon lecteur, nous nous avisons de comparer les personnages d'une fiction, non aux gens connus de nous, mais à nous-mêmes, nous prenons cette habitude et nous nous lisons comme un livre, du moins comme un manuscrit difficile, avec attention et application. Et quand nous revenons au livre, nous avons acquis une aptitude plus grande à les comprendre et à les juger, ce qui du reste est la même chose. Il est certains livres qu'on ne sait guère comment lire et pour lesquels on sent que l'on n'a point de critérium. Ce sont les livres où sont rapportés, décrits et dépeints, des caractères d'exception. Ce ne sont point des livres faits pour le plaisir, chez l'auteur, de conter, chez le lecteur, d'entendre bien conter. Ce ne sont pas des livres d'observation générale et par conséquent que nous puissions contrôler. Ce ne sont point des livres d'idéalisation et que, par conséquent, nous puissions contrôler encore, en ce sens qu'ils présentent, comme réaliser ce qui est en nous belle inspiration, beaux rêves et belles ambitions morales. Ce sont des livres où nous sont présentés des êtres dont l'intérêt même est d'être en dehors de la moyenne, en dehors de la vie connue, et en dehors de la vie telle que, à l'ordinaire, nous voudrions qu'elle fût. Telles sont, par exemple, souvent, les créations ou les créatures des frères Goncourt. Tel est le principal personnage du Horla, de Maupassant, etc. Les auteurs qui ont ce goût nous diront volontiers que ce sont les plus intéressants des livres, puisqu'ils apprennent quelque chose. Ceux que vous pouvez contrôler par vos observations propres ne valent pas la peine d'être écrits, puisque vous pourriez presque les faire, et que par conséquent, il vous est peu utile de les lire. Les nôtres sont des livres d'observation, et les livres d'observation par excellence, puisqu'ils sont d'observation inédite, et qu'ils étendent le domaine de l'observation. Ils nous étonnent, pourtant, et nous désorientent, parce que nous ne nous y sentons pas sur un terrain sûr, et que nous ne pouvons plus les contrôler même partiellement, et que, pour ainsi dire, ils nous demandent trop de confiance. On voudrait le plus souvent que ces livres-ci fussent placés par les auteurs en terre étrangère, et donnés comme des relations de voyage. D'un japonais, rien n'étonne beaucoup, et l'on n'est point surpris que, par rapport à nous, un japonais soit très exceptionnel, et que nous manquions de critérium pour juger s'il est vrai ou faux. On voudrait encore que l'auteur nous donnât sa parole d'honneur que le fait est vrai et que les caractères sont vrais, auquel cas on lirait ses livres comme des livres scientifiques, rapportant des observations toutes nouvelles, et toutes étranges et plus intéressantes que tous les autres, en effet, car ce n'est point un cas classique de fièvre muqueuse qui intéressera un médecin. Mais la parole d'honneur du romancier n'est point de ces choses qui nous puissent mettre en pleine assurance. Le moyen le plus usité, et le meilleur assurément, qu'emploient les romanciers qui savent leur métier, est d'entourer le cas exceptionnel d'un bon nombre de faits d'observation très courantes, au contraire, et bien connus. À ce compte, nous leur faisons confiance, parce que nous voyons qu'ils savent bien observer ce que nous observons nous-mêmes, et nous les respectons comme bons observateurs, et nous supposons qu'ils ont été aussi des cas exceptionnels qu'ils nous rapportent. Et ce cas exceptionnel bénéficie, en quelque sorte, de l'exactitude de tout ce qui l'entoure. Moi, tout compte fait, je ne saurais trop dire comment il faut lire ces livres-ci. Ils échappent un peu aux moyens ordinaires de lecture. Le plus souvent, on les lit comme purs et simples ouvrages d'imagination, et l'on ne sait gré à l'auteur que de sa faculté d'imaginer, contre quoi précisément il proteste, disant « si c'était imaginé, ce ne serait pas intéressant », et se fâchant comme un historien dont on dirait qu'il est un romancier très curieux. L'exceptionnel, en littérature, est plein de dangers. La littérature proprement dite est la peinture de notre âme à tous, et de nos mœurs à nous tous, avec une certaine exagération savante destinée à mettre en relief les parties les plus importantes et les plus intéressantes de la vérité elle-même. Et c'est cette exagération qui fait les caractères d'exception, comme les harpagons, les tartuffes, les chimènes, les paulines, les monimes et les mithridates. Mais ces exceptions, n'étant qu'une exagération habile et un agrandissement de la vérité elle-même, sont reconnaissables et contrôlables encore. Un vers du bon Samson, l'acteur, est très amusant. C'est surtout dans l'excès qu'il faut de la mesure. Il y a sans doute une certaine naïveté dans la forme, mais il a parfaitement raison. Je dirais de même, et avec autant d'ingénuité, que c'est surtout dans l'exceptionnel qu'il faut un fond de vérité générale, qui nous persuade que, si anormal qu'il soit, il est vrai encore, et qui, par là, lui rende en quelque sorte son autorité sur nous, et par suite son intérêt. Quant à l'exceptionnel tout pur, le plus souvent il rebute par son caractère apparemment hybride, par l'incertitude où l'on est s'il est une vérité, auquel cas il n'y aurait rien de plus intéressant, et s'il est une fantaisie, auquel cas il n'intéresse que sur l'auteur, doué d'un tour d'imagination si particulier. Je dis souvent, l'exceptionnel du roman ne me renseigne que sur l'exceptionnel de l'auteur, ce qui du reste est déjà de quelque valeur. Beaucoup de lecteurs, pourtant, s'intéressent à l'exceptionnel proprement dit, lisant, disent-ils, pour se secouer, pour se dépayser, pour voir du nouveau et du tout nouveau, et précisément ne tenant point à contrôler ce qui n'est que se ramener au déjà-vu et au train peu aimé de tous les jours. Je ne songe pas à leur en vouloir, mais il me semble que peut-être il vaudrait mieux qu'ils s'adressassent à un autre art qu'à la littérature. Ce qui nous fait sortir de la vie où nous sommes, ce n'est ni la littérature, si romanesque ou si poétique qu'elle puisse être, ni la peinture, ni la sculpture. C'est l'architecture et la musique, aux deux pôles pour ainsi dire de l'art. L'architecture qui, tout compte fait, et quoi qu'on ait pu dire, ne copie rien, et n'est que combinaison de belles lignes toutes abstraites et tirées de notre conception intime et pure des belles lignes. La musique qui ne copie rien, et qui ne peint que des états d'âme, et qui ne suggère que des états d'âme. Encore l'architecture ramène la pensée à la vie civile, en ce sens qu'un monument est fait pour recevoir une foule en vue de tel ou tel acte, et doit, jusqu'à un certain point, avoir le caractère qui convient à cet acte, comme il a la forme qui s'y prête. Et une école ne doit pas présenter les mêmes combinaisons de lignes qu'une église. Et la musique seule est tout à fait l'art qui permet qu'on échappe à la vie et qui aide à en sortir. Et c'est l'expression même de la rêverie. Les amateurs d'exceptionnel en littérature et qui l'aiment, non point parce qu'ils sont blasés sur le normal, mais par goût de s'évader de la vie réelle, se trompent donc, je crois, en s'adressant à la littérature. Y entretiennent, en se plaisant à lui, un genre qui, en littérature, est un genre faux, et ferait mieux, je crois, de s'adresser, selon leur tempérament particulier, à l'un ou à l'autre des deux autres arts que j'ai dit. Quoi qu'il en soit, il y a lecture très différente selon les différentes natures d'esprit. Et par suite, il y a, et elle est amusante, décevante aussi, ou peu sûre, et telle qu'il ne faut pas s'y fier légèrement, mais assez instructive en somme. Une étude des esprits et même des âmes. Une étude des hommes, parce qu'ils se montrent comme lecteurs. Celui, par exemple, qui ne peut lire que des narrations, le lecteur d'Alexandre Dumas, n'est pas pour autant un homme d'action, et quelquefois même il est très paresseux. Mais le plus souvent, il n'est ni un observateur des autres, ni un observateur de soi-même, et il n'a ni vie intérieure, ni vie extérieure intellectuelle. Il est amateur de course, et volontiers spectateur de départ d'aviation. Il est, sauf quand il est atteint de paresse physique, très grand voyageur. Les voyages étant, sinon tout à fait, comme a dit Emerson, le paradis des sots, du moins le paradis de tous ceux à qui le don d'observer ou de méditer est refusé. Ni la méditation, ni même l'observation, ne demandant plus de 6 kilomètres carrés pour se satisfaire. Il est très volontiers conteur, et conteur de soi-même. Il est celui qui dit le plus « j'étais là, telle chose m'advint ». Il compte beaucoup, raisonne peu, ne réfléchit jamais et ignore le repentir. C'est un homme aimable, dont la société est aussi agréable qu'elle est inutile, s'il est vrai, ce que l'on pourra contester, que ce qui est agréable puisse être inutile. Le lecteur qui n'aime que le roman réaliste est généralement un esprit juste, droit, pondéré, qui a de bons yeux, un bon raisonnement, qui ne se trompera guère, que l'on ne trompera pas souvent, et qui se tirera bien de l'affaire de la vie. Il a une tendance au pessimisme, ou plutôt, car le grand pessimiste est toujours un idéaliste froissé, il a une tendance à trouver tout médiocre, à bien compter là-dessus, et à s'en accommoder sans trop de peine. Des hommes, il se console par en médire, et il est de ceux, signe d'âme triste et un peu mauvaise, pour qui la médisance est une consolation. L'amateur de livres réalistes n'est pas très bon. Il trouve souvent que son auteur n'est pas assez noir, et il lui donnerait des conseils dans le sens d'une plus grande sévérité et des avis très vigoureux sur la bassesse humaine. L'amateur de livres réalistes est d'une société un peu attristante. On l'estime dans les salons personnage indésirable, à moins qu'il n'ait de l'esprit et de l'humour, en considération de quoi l'on pardonne en ces lieux-là absolument tout. Le lecteur de livres idéalistes, où les personnages ont des vertus extraordinaires et des délicatesses de sentiments inattendues, est généralement une lectrice. « J'ai pour moi les jeunes gens et les femmes », disait Lamartine. Et George Sand aurait pu le dire aussi sans se tromper aucunement. Le lecteur de livres idéalistes n'est pas nécessairement optimiste, mais il aime à croire à la noblesse de la nature humaine, au moins chez un certain nombre d'individus privilégiés parmi lesquels il se place, et non pas toujours à tort. Il a des mouvements généreux. Il a au moins des mouvements généreux qui, pour n'être pas toujours suivis d'un plein effet, doivent pourtant lui être comptés. Il se fait une âme très spéciale qui est composée de celle d'abord qu'il a apportée avec lui et qui tendait naturellement à l'idéal, de celle ensuite qu'il a tirée de ses livres favoris et qui raffine encore et renchérit sur les instincts primitifs. Il se fait ce qu'on appelle une âme romanesque. Le romanesque est un être très aimable qui nous donne bien des satisfactions, celle d'abord de l'aimer, celle ensuite de l'admirer un peu comme un noble exemplaire, en somme, de l'humanité, celle ensuite de ne pas le craindre, encore qu'il ne fallût pas, à cet égard, avoir une pleine confiance. celle enfin de lui donner ces fameux conseils de bon sens, de prudence, de sagesse pratique, qu'à donner, nous nous épanouissons, nous nous élargissons, nous nous enorgueillissons, et qui comble de plaisir, de pleine satisfaction, de joie intime et profonde, du sentiment de la supériorité indulgente et bienfaisante, ceux de qui elles partent. Les lecteurs de poètes ne sont pas très différents des lecteurs de romans idéalistes. Il y a pourtant quelques distinctions à faire. Le lecteur des poètes n'est pas seulement un romanesque, c'est un artiste, ou un homme qui a des prétentions à être artiste. Il veut lire dans une langue artiste, dans cette langue, comme a dit Musset, que le monde entend et ne parle pas. Et j'ajouterai que le monde n'entend même pas beaucoup. Le lecteur de poètes est un initié ou croit l'être, et se flatte de l'être. Il y a entre les poètes et les lecteurs de poètes une franc-maçonnerie qui n'existe pas entre les romanciers et les lecteurs de romans. Pour le poète, le lecteur des poètes est un homme qui a le chiffre. Et le lecteur des poètes sait qu'il a le chiffre, ou il croit l'avoir. Aussi, le lecteur de romans idéalistes n'est pas dédaigneux à l'ordinaire, mais le lecteur des poètes l'est presque toujours. Il méprise ceux qui lisent les journaux. Il méprise un peu ceux qui lisent les livres pratiques et les livres d'histoire. Il ne doute point qu'il n'ait une âme de qualité supérieure, une âme nourrie du miel d'Hymette. Il est rare qu'un lecteur de romans idéalistes écrive lui-même des romans. Il est rare, au contraire, que le lecteur de poètes ne fasse pas des vers lui-même. Il est du Parnasse. Je ne l'en dissuaderai pas du reste. Dans les livres de philosophie, on va chercher des idées générales. Dans les romans réalistes, des observations. Dans les romans idéalistes, de beaux sentiments. Dans les poètes, tout cela, et de plus, des inventions de rythme, des trouvailles de mélodie, d'harmonie, toute une technique qui, ici, a autant d'importance que le fond. Et de cette technique, on ne jouit, à cette technique, on ne se plaît, à cette technique, on ne se joue amoureusement que si soi-même on s'en est mêlé, que si on s'y est essayé, que si l'on en a mesuré les difficultés, que si l'on y a atteint soi-même à quelque petit succès relatif. Comme il n'y a que les musiciens qui comprennent la musique, et les autres, quand ils croient y entendre quelque chose, sont des snobs, il n'y a que les hommes qui ont été un peu versificateurs qui comprennent les poètes. Sait-on assez moquer des vers latins qu'on nous faisait faire encore dans notre enfance? Ils avaient été inventés pour qu'on eût du plaisir à lire Virgile, pour qu'on ne le lût pas comme de Laulugele, et par des gens qui savaient qu'ils goûtaient Mozart parce qu'ils avaient joué du violon, et Virgile parce qu'ils avaient fait des vers latins. Le lecteur de poètes est donc presque toujours un versificateur, ou il l'a été. Il se sent par là d'une classe un peu supérieure au reste de l'humanité. C'est un raffiné, c'est un select, c'est un noble. Cette vieille fille, noble, dans une nouvelle d'Edmond About, disait « Ce qui me plaît dans les artistes, c'est qu'ils ne sont pas des bourgeois ». Le lecteur des poètes sent qu'il n'est pas un bourgeois. Il est du reste souvent très aimable à travers cette légère affectation et, sauf une certaine irritabilité qui lui est venue, comme par contagion, des poètes eux-mêmes, il est sociable, bon causeur, avec un langage choisi, et épouse généralement les causes nobles. « Ô poète, dit-on ordinairement aux idéalistes, ce qui fait très grand honneur au poète. On peut dire aussi, il est distingué, surtout, il veut l'être. Volontiers original, un peu dédaigneux, il a le goût des sentiments nobles. C'est un lecteur de poètes. » Enfin, le lecteur de livres, où sont peints des êtres tout à fait exceptionnels, est en général un homme que la vie ne satisfait pas, et qui ne la trouve pas intéressante, et qui veut s'en tenir le plus loin possible. Il est un peu comme le Fantasio de Musset, disant « Je voudrais être ce monsieur qui passe. Il doit avoir une foule d'idées qui me sont complètement étrangères. Son essence lui est particulière. » Et encore non, point tout à fait. Le chercheur d'exception voudrait être le monsieur qui ne passe pas, le monsieur qui n'est jamais passé devant lui, et qui n'y passera jamais. Il ne peut pas être très sociable. Ne lui parlez pas. Vous êtes au nombre des choses connues. Vous avez la vulgarité du réel. Il est incontestable que c'en est une. Il n'y a de distingué, comme se distinguant nécessairement de tout ce qui n'existe pas, et même que ce qui ne peut pas exister. Car pour être conçu comme pouvant exister, il faut déjà ressembler à quelque chose. Tout ce que je viens de dire est généralement vrai. mais, comme il arrive, les choses sont quelquefois tout à l'inverse. Par un certain besoin de réaction contre soi-même, et pour ne pas tomber du côté où l'on sent qu'on penche, c'est quelquefois le penseur très abstrait et l'homme d'examen intérieur qui aime, souvent du moins, lire des ouvrages de pure narration. Et l'on a cité tel très digne héritier de Montesquieu qui faisait ses délices de Ponson du Terrail. C'est quelquefois, et même assez souvent, un homme à penchant romanesque qui fait sa lecture ordinaire des romans réalistes. Et ici, l'on pourrait citer Flaubert lui-même qui, romanesque et romantique et perdu, se corrigeait et rectifiait lui-même non seulement en lisant des romans réalistes, mais en faisant. Et enfin, on s'aperçoit assez souvent, surtout chez les femmes, qu'un très grand goût de lecture romanesque n'est qu'une surface, et qu'en leur fond, on les trouvera très réalistes et très pratiques. Je dis assez souvent. Le caractère d'après les lectures, cela est donc vrai, mais, comme beaucoup de vérités, d'une vérité relative. Et c'est une observation intéressante, mais qui, comme toutes les observations, demande contrôle. Je mets à part un type disparu, ou à peu près, mais qu'il faut mentionner pourtant, puisqu'il n'a pas complètement cessé d'exister. Je veux parler du lecteur des livres anciens, du lecteur d'Homère, de Virgile, d'Horace et de quelques autres. Ce lecteur est généralement un professeur de littérature latine dans une faculté, mais ce n'est pas de lui que je veux parler. Je ne parle pas ici des lecteurs professionnels. Je songe aux lecteurs d'Homère ou d'Horace qui les lit par goût, par élection, par vocation, et qui se plaît à eux seulement parce que ce sont eux et que c'est lui. C'est un homme assez singulier, tout à fait charmant du reste, presque toujours, mais assez singulier en vérité. D'abord, c'est un homme sur qui ses premières études ont eu une très grande influence, qui ne s'est pas ennuyé au collège, que ses professeurs n'ont pas dégoûté des auteurs classiques par la manière dont il les enseignait. Et voilà déjà un homme un peu exceptionnel. Il y a des chances, je crois, pour qu'on en trouve, non pas beaucoup plus, mais un peu plus, dans les générations de demain et d'après-demain, parce que les professeurs actuels de l'enseignement secondaire n'enseignent plus du tout les auteurs classiques. Il ne s'occupe que de sociologie et de littérature contemporaine. C'en est donc fait de l'humanisme. En une certaine mesure, au contraire, parce que c'était la façon dont généralement les auteurs classiques nous étaient montrés qui nous les faisait prendre en horreur, parce que Virgile et Horace ne pouvaient rester dans nos souvenirs qu'accompagnés de l'idée d'ennui, et parce que, laissés de côté par les professeurs d'à présent, ils se présenteront aux écoliers dans toute leur beauté propre, avec leur charme inaltéré, et, si j'ose ainsi parler, sans encrassement. Savoir lire en latin et lire Virgile sans intervention de professeur, c'est la condition la meilleure pour se plaire à Virgile, et c'est la condition où se trouvent généralement nos écoliers d'aujourd'hui. Une renaissance de l'humanisme est peut-être là. Quoi qu'il en soit, le lecteur d'Horace est un homme sur qui ses premières études, grâce à telle circonstance ou à telle autre, grâce à l'abstention de ses professeurs à l'égard de la littérature antique, ou grâce, au contraire, à un professeur exceptionnel qui savait faire goûter les auteurs anciens, ont eu une influence très forte et très prolongée. Secondement, un peu à cause de ce qui précède, mais pour d'autres raisons qu'il faudrait chercher dans sa psychologie individuelle, c'est un homme que la littérature de son temps, quand il est sorti du collège, a peu intéressé. Il était homme, par conséquent, à se tourner du côté des arts, peinture, musique, mais sans doute il n'avait point ses goûts ou ses aptitudes. Il est peu à peu revenu à ce qui l'avait, sinon charmé, du moins intéressé vers la 15e année. Il s'est aperçu, son intelligence et sa sensibilité s'étant accrues, que ses auteurs sont d'excellents et d'exquis aliments de l'âme et de l'esprit. Cet homme, il a maintenant entre 40 ou 50 ans, est presque absolument étranger et indifférent au temps où il vit. Il ressemble à Montaigne et, tout compte fait, c'est précisément un Montaigne à 2 ou 3 ou à 10 degrés au-dessous du prototype. Je dis indifférent au temps où il vit et non pas hostile, car, s'il y était hostile, il s'en occuperait continuellement pour s'indigner contre lui et pour le maudire. Je dis indifférent, étranger, et qui ne le connaît pas et ne se soucie aucunement de le connaître. Ce n'est pas que le lecteur des anciens se soit fait précisément une âme grecque ou une âme romaine, il s'est fait une âme de tous les temps, excepté du temps où il est. En effet, ce par quoi les anciens ont survécu, c'est ce qu'ils avaient d'éternel, de très général exprimé dans une forme définitive. Or, cela est de tous les temps, excepté de chacun. Je veux dire qu'à chaque époque, l'homme de raison, d'imagination, de sensibilité et de goût y trouve son plaisir, à la condition qu'il ne soit pas dominé par le tour d'imagination, de sensibilité, de goût et de raisonnement qui est particulier à son temps même. Au XVIe siècle, un humaniste est un homme que le problème religieux, ou plus exactement ce qu'il y a de problème dans le sentiment religieux et dans la croyance, ne torture pas. Au XVIIe siècle, le partisan des anciens est un homme que la gloire de Louis le Grand, encore qu'elle le touche, n'éblouit point et n'hypnotise pas. Au XVIIIe siècle, l'homme de goût, très rare, est celui qui n'est pas très persuadé que l'univers vient pour la première fois d'ouvrir les yeux à la raison éternelle, et que le monde date d'hier, d'aujourd'hui ou plutôt de demain. Au XIXe siècle, le classique, vraiment digne de ce nom, est celui qui n'est pas comme subjugué par les Hugo et les Lamartine, et qui s'aperçoit de tout ce qu'il y a, Dieu merci, de classique dans Hugo, Lamartine et Musset, et qui garde assez de liberté d'esprit pour lire Homère, pour Homère lui-même, et non pas en tant qu'homme qui annonce Hugo et qui semble quelquefois être son disciple. Le lecteur des anciens est donc étranger à son temps sans y être hostile. Si étranger à son temps qu'il ne lui est pas même hostile, et en quelque façon de tous les âges. Il est l'homme sur qui aucune mode n'a d'influence, et qui ne s'aperçoit pas qu'il y a des modes. C'est un homme très heureux, si c'est un bonheur, comme je le crois, de ne pas vieillir. Il ne s'aperçoit pas des changements qui se sont produits depuis sa jeunesse dans le goût public. Il goûte ce que quelques-uns, parmi les jeunes et parmi les vieux, goûtaient déjà dans sa jeunesse, et ce que quelques-uns, parmi ses contemporains et aussi parmi les jeunes, goûtent encore. Il a toujours été avec quelques-uns, il n'a jamais été seul, et n'est pas plus seul à 60 ans qu'il n'était à 20. Il ne se doute pas que la littérature est la chose la plus instable du monde. Il n'est pas très vivant, comme on dit. Mais il est comme s'il avait choisi une fois pour toutes entre le vivant et l'éternel. Et c'est l'éternel qu'il a choisi. Il est assez probable qu'il a la meilleure part, et il est certain qu'elle ne lui sera point ôtée.
Fin de la section 3.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax tip and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.